Archéologie naturelle, 9 février 1984, Père Philippe Saint-Joseph.
Il y a quelques questions que je verrai peut-être à la fin. Je vais terminer cette question sur la simplicité. Donc, nous avions vu la synthèse assez extraordinaire que saint Thomas fait dans cet article, article 7e. Voyez bien, je reviens un instant sur ce que je vous disais la dernière fois, l'article 7. On voit très bien, per modum negationis, par mode de négation, on supprime toutes les compositions. Par mode de causalité, par mode de causalité, donc la causalité est sous-jacente, la négation, puis l'éminence. Et ça, c'est très clair quand vous prenez cette question sur la simplicité. Alors, ça, c'est sûr que saint Thomas y pense, puisque saint Thomas l'a dit dans les sentences. Et saint Thomas l'a repris, c'est le langage de Denis que saint Thomas aime bien. Donc, nous pouvons parler de Dieu par mode de causalité, par mode de négation, par mode d'éminence. Alors là, nous le voyons très bien, c'est dit explicitement, de sorte que c'est important pour nous de le saisir et de le comprendre. Et alors, il y a cet article 8 qui vient, j'allais dire, en surcharge, d'une certaine manière. Tout est terminé, omnino simplex, tout à fait simple. Alors, on ne sait pas pourquoi. Et cet article 8. Cet article 8, je crois, c'est pour que nous comprenions mieux les conséquences mêmes de la simplicité par rapport à la transcendance de Dieu. Dieu ne peut pas entrer en composition. Et ceci pour lutter contre tout panthéisme. Alors j'allais presque dire, vous voyez, c'est une question de théologien par rapport à la manière dont on a regardé les rapports entre Dieu et le monde, entre Dieu et l'homme. Et alors, on montre que cette contemplation de la simplicité de Dieu purifie notre regard de tout panthéisme. Alors ça, c'est très intéressant. C'est que tout panthéisme, saint Thomas sentait que le panthéisme est une chose très très grave, parce que c'est une manière de mal comprendre l'alliance de Dieu avec les hommes. Ça détruit la véritable alliance. Alors, ça détruit à la fois Dieu et l'homme. Et parce que ça détruit l'homme, le panthéisme conduit à l'athéisme. Ça, toujours. Le panthéisme conduit à l'athéisme. Parce que si, et c'est une netteté avec la philosophie hégélienne. La philosophie hégélienne, c'est le panthéisme plus fumeux et fameux. Parce que c'est les deux, c'est le panthéisme le plus extraordinaire qui soit. Et la conséquence de ce panthéisme, c'est les idéologies athées. Je crois que ça ne peut pas être autrement. Parce que si vous supprimez l'autonomie de l'homme, si vous ne regardez plus l'autonomie de l'homme dans toute sa force, il y a une revendication de l'homme. Et cette revendication de l'homme, c'est justement de rejeter Dieu. Donc il y a une espèce de rejet naturel à l'égard de Dieu. Ce rejet qui se fait dans l'athéisme. Alors, reprenons la question de l'article qu'on a commencé, mais je ne relis pas le 7 contre 1, il est facile à comprendre. À ce sujet, trois erreurs se sont fait jour. Il y en a qui ont dit « Dieu est l'âme du monde », comme on le voit dans la Cité de Dieu, Saint-Augustin. Donc, c'est une vieille tradition, une vieille tradition religieuse. Une vieille tradition religieuse que vous voyez dans la philosophie grecque. Dieu est l'âme du monde. D'autres ont dit, Dieu est le principe formel de toute chose. Et telle fut, dit-on, l'opinion des partisans d'Amorique. Ça ne vous dit pas grand-chose, mais ça vous dira quelque chose. Enfin, la troisième erreur fut celle de David de Dinan, qui en vint à ce comble de folie d'appeler Dieu la matière première. Vous voyez donc que sous-jacent à ça, il y a toujours la distinction matière et forme. La distinction d'illéformé. Si la distinction de matière et forme n'est plus simplement regardée du côté du devenir, mais regardée du côté de l'être, on la projette jusqu'en Dieu. Alors, on dira Dieu, forme du monde, ou Dieu, matière du monde. C'est la même erreur. Il y en a une qui est plus grossière que l'autre. Et puis, la même distinction matière et forme est une distinction analogue à celle de âme et corps. Alors, on voit très bien comment on peut dire Dieu est l'âme du monde. On n'a pas dit Dieu est le corps du monde. Mais on pourrait le dire aussi. Donc, saint Thomas souligne là les trois formes de panthéisme devant lesquelles l'Église s'est trouvée. Ah, nous pourrions peut-être en ajouter, nous, hein, parce que ça a fait des progrès. Alors, ça a fait des progrès, vous avez dans l'hégélianisme. Dans l'hégélianisme, quelle est la forme de panthéisme dans l'hégélianisme? Parce que c'est une sorte de panthéisme. Puisque au terme, Hegel s'identifie avec Dieu. Terme, l'esprit de Hegel qui est Hegel. L'esprit de Hegel s'identifie avec Dieu. Ça va très loin. C'est un panthéisme qui est très différent, qui n'est ni un panthéisme formel, ni un panthéisme matériel, qui est le panthéisme de l'esprit. Alors ajoutons, Dieu est esprit, et l'esprit absorbe la matière. Parce que la matière est une attente de l'esprit. Si la matière est une attente de l'esprit, si dans la matière on met du psychisme, en mettant que la matière est une attente de l'esprit, l'esprit parfait absorbe la matière. Et il y a une absorption de la matière progressive. Et ça, c'est le panthéisme hegélien. C'est le plus distingué. Hein. Connaître, c'est pas étonnant. Il vient après les autres. Hein. C'est le plus distingué, c'est le plus subtil. C'est l'identification de l'esprit avec Dieu. Or, mon esprit existe, donc je m'identifierai avec Dieu. Au bout d'un terme, je m'identifierai avec Dieu. Je crois. Là, vous voyez, il n'y en a pas d'autre. Hein. Forme à esprit. L'esprit de nous. Hein. Intelligence. Plotin, c'est moins virulent du côté de l'âme. Mais Plotin ne dit pas que Dieu est l'âme du monde. Il y a quelque chose de différent, vous voyez, comme panthéisme. Il y a quelque chose du panthéisme dans Plotin, comme dans tout néoplatonisme et comme dans tout ontologisme. Mais c'est ce qui est le plus virulent, c'est justement cette identification. Donc on peut ajouter ce point de vue-là. Alors, une première raison en est. Mais tout cela n'est que fausseté. Vous voyez, saint Thomas dit un méchant, là, hein, quand il dit « Omnia enim ec manifesto manifestam continet falsitate ». Ça contient de la fausseté. Saint Thomas, gendarme de Dieu. Hein. Alors, gendarme de Dieu, si on parle mal de Dieu, allez, on va lui donner des coups de boutoir. Mais tout cela n'est que fausseté. Il ne se peut pas que Dieu vienne d'aucune manière en composition d'une chose, ou s'identifie avec sa créature, soit comme principe formel, soit comme principe matériel, et ajouter comme esprit. Une première raison en est. Donc les raisons de saint Thomas vont valoir même jusque la pensée hegélienne. Saint Thomas, là, nous donne les arguments pour répondre à Hegel. On va voir. Hein. Une première raison en est que Dieu, comme nous l'avons vu, est première cause efficiente. C'est la causalité efficiente. La causalité efficiente, c'est la première transcendance. Or, la cause efficiente ne vient pas s'identifier numériquement avec la forme de l'effet, mais seulement selon l'espèce, comme l'homme engendre l'homme. Quant à la matière, elle ne s'identifie à la cause ni numériquement, ni quant à l'espèce, vu qu'elle est en puissance et que la cause agit comme en acte. Donc, évidemment, la grande raison, c'est que Dieu est acte pur. Et je crois que c'est ça la raison. Dieu est acte pur. Si Dieu est acte pur dans son esprit, dans son être, Dieu ne peut pas entrer en composition. L'acte n'entre pas en composition, l'acte sépare. Vous voyez, c'est la confusion entre l'acte et la forme qui conduit au panthéisme. C'est la confusion entre l'acte et la forme. La forme entre en composition, mais pas l'acte, puisque l'acte sépare. Et alors, dans l'hégélianisme, c'est un manque de conception de l'esprit en acte, puisqu'il y a un process, il y a un processus. Il y a une dialectique. On devient acte pur au niveau de l'esprit. Or, en réalité, on ne devient jamais acte pur. Parce que si on devient, ça prouve qu'il y a une puissance. Et l'acte ne supprime jamais la puissance. Vous voyez, prétendre que le nous va absorber la matière, c'est ni comprendre le nous, ni comprendre la matière. Si la matière est pure puissance, elle ne sera jamais absorbée totalement par la forme. Dieu peut, et c'est la toute-puissance de Dieu seul, qui peut transformer totalement la matière parce qu'elle est matière, parce qu'elle est en puissance. Vous voyez, la résurrection des corps présuppose la materia prima pure puissance. Vous ne pourriez pas expliquer la résurrection des corps et la glorification des corps sans la materia prima, pure puissance. Ce qui est une continuité et une discontinuité totale. Il n'y a pas annihilation. Et il n'y a pas suppression de la matière. Notre corps restera un corps, mais il sera glorifié. Mais il restera un corps. Vous ne direz pas que c'est un corps spiritualisé et donc il n'y aura plus que l'esprit. Non, non, c'est faux. La matière ne peut jamais être absorbée par l'esprit, en tant que matière. Donc c'est une confusion complète, à la fois de l'esprit et de la matière. De prétendre que la matière... Parce que c'est ça la grande tactique du démon, hein, on le sait très bien. Alors, au point de vue théologique, c'est facile à comprendre. Hein. Si la colère la plus profonde du démon, c'est que Dieu, esprit, ait créé la matière, du moins... et créé des réalités physiques. Et donc il a concret, pour parler correctement, la matière. Parce qu'il n'a pas créé la matière. Il a concret la matière. Il a voulu qu'il y ait quelque chose qui est radicalement en puissance. Et si Dieu a voulu qu'il y ait quelque chose qui soit radicalement en puissance, c'est pouvoir qu'il y ait comme un vestige de l'infini dans la créature. Un vestige substantiel de l'infini. La materia prima est un vestige substantiel de l'infini. Et Dieu a voulu ça pour pouvoir communiquer davantage la vie et pour pouvoir communiquer une vie féconde. C'est grâce à la matière. S'il n'y avait pas la matière, il n'aurait pas pu communiquer une vie féconde. La fécondité présuppose la materia prima, condition substantielle pour la communication d'une fécondité substantielle, c'est-à-dire une communication de la vie. C'est pour ça que Dieu l'a fait. Donc l'irritation la plus forte du démon, c'est à l'égard de la materia prima. Et c'est pour ça qu'au fond, il essaiera par tous les moyens de nous détourner de la vraie conception de la materia prima. Alors, les deux conceptions sont très nettes, et là on voit la marque du démon. Première conception, la matière est mauvaise. Seconde conception, la matière c'est l'esprit. Ça me semble très très net. Et il y a un parallélisme, c'est très curieux. Hein. On pourrait dire jusqu'à Saint-Clément, que c'est vrai, hein. Jusqu'à Saint-Honoré, la matière était toujours un peu considérée comme mauvaise. Saint-Honoré, le théologien libérateur de la matière. Saint Thomas est le théologien qui a libéré la matière, qui a dit la matière n'est pas mauvaise. Et vous savez que selon la légende, c'est quand il était à la table du roi Saint Louis. C'est donc la présence de Saint Louis qui a rayonné sur l'esprit de Saint Thomas et qui a permis à Saint Thomas de découvrir que de fait, la matière prima n'était pas mauvaise. On raconte cette petite légende, vous savez, c'est très belle, hein, merveilleuse. Je crois qu'elle est plus vraie que tout ce qu'on peut dire. Saint Thomas a invité à la table Saint Louis. N'a pas du tout envie d'y aller, parce qu'il sait très bien que les repas ecclésiastiques et quand ils sont royaux, ça dure du temps, donc ça va pas. Alors il a envie de refuser, et il le dit à son prieur, et le prieur lui donne un ordre d'y aller. Mais comme saint Thomas sait très bien ce que c'est que l'obéissance, il doit y aller, corporalitaire, mais il n'est pas obligé d'y aller, spiritualitaire. Donc il y va corporalitaire, il obéit, il exécute, mais il continue de méditer. Ça ne le gêne pas beaucoup, parce qu'il avait une capacité extraordinaire de méditer. On disait que lorsqu'on lui enlevait des dents, il se mettait à méditer et il sentait pas la souffrance des dents. Merveilleux. Sa condensation était si forte que tout était pris par là. Alors on pouvait lui retirer une dent, il ne souffrait pas. Et ça, c'était pas un phénomène charismatique, c'était un phénomène tout simplement spirituel. Une intensité de méditation telle que vous pouvez, alors à ce moment-là, lui arracher une dent. Ça fait partie de ces saintes légendes, n'est-ce pas ? Mais je crois quelque chose de vrai, quelque chose de très très vrai. Si on est pris par une méditation très intense, toute la vitalité part là. Alors saint Thomas continue de réfléchir, tout d'un coup, oubliant complètement qu'il était à côté du roi, il frappe sur la table en disant « J'ai trouvé ». Et à ce moment-là, le Saint-Louis se retourne vers lui. S'ils avaient su l'un et l'autre qu'ils étaient des saints, ça aurait été merveilleux. Ils ne savaient pas. Alors, « J'ai trouvé ». Ça nous dit quoi ? Et oui, l'argument pour montrer que le manichéisme est erroné et que la matière est bonne. Alors Saint-Louis fait vite venir un scribe pour que l'idée, la trouvaille de Saint-Thomas ne soit pas perdue. Ça c'est très beau, de voir que c'est à la table de Saint-Louis que Saint-Thomas libère la matière, théologien libérateur de la matière, hein, pour faire que la matière n'est pas mauvaise. Alors que jusque-là, il y avait toujours des petits restes. Dans Saint-Augustin, il y a des petits restes. Et à partir du moment où on a libéré la matière, le démon est vaincu. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il reprend, il change son fusil d'épaule, pour le démon s'annule. Qu'il soit de droite ou de gauche, ça n'a aucune espèce d'importance. Aucune espèce d'importance. Alors il change son fusil d'épaule, et puis tout simplement, mais la matière, c'est très simple, c'est une attente de l'esprit. C'est une attente de l'esprit. La matière, elle est attente de l'esprit. Alors vous voyez, c'est diamétralement opposé. Il n'y a plus de distinction entre la matière et l'esprit. Plus de distinction entre le corps et l'âme. S'il n'y a plus de distinction entre le corps et l'âme, alors tout est psychique. Et vous mettez du psychique dans la matière. Alors ça, c'est justement parce qu'on confond le point de vue de la matière, on confond matière et esprit, et alors confondant matière et esprit, on attribue à la matière ce qui est vrai à l'esprit. Vous voyez ? Alors c'est très important de comprendre ça, parce que je crois que ça, c'est l'hérésie fondamentale. L'hérésie fondamentale regarde la materia prima. Très curieux. Et c'est une des raisons pour lesquelles saint Thomas regarde Aristote, parce qu'il est le seul qui a bien précisé que la materia prima, eh bien, elle est en puissance, pure puissance. Donc n'oublions jamais ce qui est dit ici. Il en est une seconde raison, que Dieu étant cause efficiente première, il lui appartient d'agir par lui-même, précisément selon ce qu'il est. Alors ça, c'est l'action de Dieu. C'est au fond le Créateur. Or, parce que c'est la création qui nous montre l'action de Dieu capable de réaliser quelque chose. La cause efficiente à l'état pur, c'est Dieu cause, c'est Dieu Créateur. Or, ce qui vient en compensation avec quelque chose n'agit plus ainsi de lui-même et par lui-même. C'est plutôt le composé qui agit. Seul Dieu est un agent pur. Et c'est pour ça que l'acte créateur de Dieu est un acte d'une pureté unique. Toutes les autres réalités, même les anges, et surtout l'homme, c'est le composé qui agit. Quand vous agissez comme composé, vous travaillez. C'est votre action, vous travaillez, et le travail manifeste parfaitement l'action du composé. Parce que l'âme travaille par le corps. C'est pas quand l'âme travaille toute seule, hein, on sait ce que ça fait. C'est un travail assez particulier. Il travaille du chapeau. Vous savez, ça, c'est, genre, c'est à la place de travailler à travers le corps, il travaille du chapeau. Ça, ça va à l'extérieur, c'est les zones extérieures. On voit très bien ce que ça veut dire. N'est-ce pas? C'est quelque chose qui fait que. Et on dit, non, travaillez avec votre main, ça vaudra mieux. Et c'est plus reposant pour les autres, n'est-ce pas, ordinairement. Pas pour le chapeau, parce que le chapeau, il doit disparaître quand on travaille du chapeau, n'est-ce pas. Mais là, on travaille avec la main. Alors, c'est quelque chose de net. Or, ce qui vient en composition avec quelque chose n'agit pas ainsi, n'agit plus ainsi lui-même. Et par lui-même, c'est plutôt le composé qui agit. Ainsi, la main n'agit pas à proprement parler, mais l'homme par la main. Et de même, le feu échauffe par sa chaleur. Dieu cause ne peut donc pas être partie d'un composé. Si Dieu était composé, il ne serait plus créateur. Voilà la seconde raison. Or, Dieu est créateur, donc il ne peut pas être composé. C'est très fort. Ça. La création présuppose que Dieu est absolument simple parce qu'il agit ex nihilo, et ça c'est deux fois. Oui, c'est l'argument théologique. Dieu est créateur, donc Dieu ne peut pas être composé. Si Dieu était composé, il ne serait plus créateur. Troisième raison, nulle partie du composé ne peut être en toute rigueur premier entre les êtres. Pas plus qu'aucun autre la matière, oui, pas plus qu'aucune autre la matière et la forme qui intègrent les composés. Car la matière est en puissance, et dans l'ordre absolu des choses, la puissance est postérieure à l'acte, comme on l'a vu plus haut. Quant à la forme, dès qu'elle est partie d'un composé, elle est une forme participée. Or, de même que le participant est postérieur à ce qui est de par son essence. Alors ça, c'est très très important pour ceux qui s'intéressent à la participation. Or, de même que sicut enim participans es posterius eo quod est per essentiam. Donc le participant est postérieur, vient après, celui qui est par essence. De sorte que l'ipsum participe. Oui. Ainsi l'ipsum participe. Ce qui participe vient après. Or, de même que le participant est postérieur à ce qui est de par son essence, ainsi en est-il de la chose participée elle-même. Par exemple, le feu dans une matière en ignition est postérieur à ce qui est le feu par nature. Or, on a montré que Dieu est en toute rigueur, premier être. Troisième raison, premier être. Le premier être ne peut entrer en composition avec personne. Vous voyez les trois raisons, hein? L'acte pur, la création, l'être premier. Qui au point de vue de la foi, bon, alors ça c'est intéressant à voir. Acte pur. En face de l'hégélianisme, hein, puisque nous nous luttons plus en face de l'hégélianisme que contre Amoric. Amoric est perdu un peu, tu vois, c'est ou Dinant, c'est un peu perdu. Tandis qu'en face de Hegel, c'est quand même important. Est-ce que ces trois raisons permettent de répondre à la philosophie hegélienne, donc à une pensée dialectique? Est-ce que l'affirmation de Dieu, acte pur, Dieu créateur et être premier, me permet de montrer que la dialectique hégélienne n'est pas acceptable pour le croyant? C'est ça qu'il faut se poser comme question, oui. Ces trois raisons que donne saint Thomas. Je prends ces trois raisons parce que ce sont les trois raisons qui montrent la transcendance. Hegel accepte une transcendance dans l'immanence. Donc, quand on accepte une transcendance dans l'immanence, ce n'est pas la véritable transcendance de l'être. C'est une transcendance vitale. La vie se transcende par l'immanence, mais pas l'être. La vie se transcende par l'immanence, ça c'est vrai. Par l'immanence, je me transcende. Ce que je touche. Particulier, ce n'est pas dialectique. Alors, il faut montrer donc que l'acte pur, c'est la transcendance dans l'ordre de l'être. Ça, c'est sûr. Donc, la dialectique ne peut pas atteindre l'acte pur. L'acte pur n'est pas dialectisable. Ça, il faut montrer. L'acte pur n'est pas dialectisable. Pourquoi ? Parce que dans la dialectique, la synthèse présuppose toujours deux éléments qui vont s'unir dans la synthèse. Dans l'acte pur, il ne peut pas y avoir de synthèse. Il ne peut pas y avoir deux éléments. Parce que pour qu'il y ait deux éléments, il faut nécessairement qu'il y ait une puissance. L'acte pur supprime toute potentialité. Donc l'acte pur n'est pas dialectisable. On ne peut pas dialectiser l'acte pur. Donc, la dialectique hegélienne ne respecte pas l'acte pur. Deuxièmement, vous voyez, quand, c'est pour reprendre l'argument de Monod. Quand il dit la vie n'est pas dialectique, bien il dit l'acte pur n'est pas dialectique, la création n'est pas dialectique, l'être premier n'est pas dialectique. C'est tout simplement. Je ne peux pas, à l'intérieur de la dialectique hegélienne, retrouver l'acte pur. Je ne peux pas, à l'intérieur de la dialectique hegélienne, retrouver la création. Je ne peux pas, à l'intérieur de la dialectique hegélienne, retrouver l'être premier. Alors, j'explique, c'est facile à comprendre du reste. La dialectique hegélienne présuppose toujours une potentialité, toujours l'antithèse. C'est la négation de la thèse. La négation de la thèse ne peut se faire qu'en supprimant la thèse. Et donc, par une potentialité radicale. Autrement, c'est impossible. Donc, on ne peut pas. La création. C'est toute la différence entre la dialectique et la thèse. La création, expliquez-nous. La création n'est pas dialectique. Elle est un pur don d'amour. Expliquez-nous, à partir de rien. Tandis que la dialectique ne se fait pas à partir de rien. Même si la dialectique se fait à partir du non-être, elle se fait à partir de l'affirmation du non-être. Et pas du non-être, objectivement. C'est l'affirmation du non-être. Puisque je ne peux faire la synthèse du non-être et de l'être qu'en fonction de l'affirmation du non-être et l'affirmation de l'être. C'est au niveau de l'affirmation que se fait la synthèse. Et l'être premier, il est au-delà de la dialectique, parce que là encore, l'être premier comme être premier transcende la dialectique. Il n'est relatif à rien. Et omnino simplex. Vous voyez, donc la simplicité de Dieu empêche Dieu d'être dans la dialectique. Parce que la dialectique est toujours une pensée de composition, de synthèse. Et donc, si c'est une pensée de synthèse, ça ne peut pas être dans la perspective de la simplicité. Ça, c'est très important, vous voyez. Alors, c'est pour ça que cet article dernier, même s'il n'existait pas, on devrait l'inventer face à la dialectique hegélienne d'aujourd'hui. Alors, grâce à Dieu, il y avait des précurseurs à la dialectique hegélienne, qui sont des David de Dinan. Je ne sais pas si Hegel reconnaît ça comme des précurseurs. Ils sont précurseurs au point de vue théologique, pas au point de vue philosophique. Au point de vue théologique, parce qu'ils aboutissent à la même chose. Ils aboutissent à un panthéisme absolu. Donc, réduire Dieu est quelque chose d'absolu. Alors, prenons la dernière objection, si vous voulez. des choses qui sont et qui ne diffèrent en rien ne sont qu'une seule chose. Or Dieu et la matière première sont et ne diffèrent en rien, donc ils sont identiques. Or la matière première entre dans la composition des choses, donc aussi Dieu. Preuve de la mineure, hein. Toute chose qui diffère par quelque différence, ce qui suppose qu'elles sont composées. Or, Dieu et la matière première sont absolument simples, donc ils ne diffèrent en rien. C'est l'enfer et le ciel. Vous voyez, c'est extraordinaire. Ça, c'est absolument, la matière première, c'est beau comme argument. Hein. C'est un sophisme remarquable. Hein. Ça, c'est le sophisme le plus magnifique qui soit. La matière première est simple. Pourquoi ? Elle n'implique aucune détermination. Dieu est simple. Pourquoi ? Il n'implique aucune composition. Donc, ils sont simples tous les deux, pas tout à fait de la même façon. Quant aux arguties de David de Dinan, elles se résolvent sans peine. Il est faux que les choses simples diffèrent entre elles par autre chose qu'elles-mêmes. Cela n'est vrai que des choses composées. Ainsi, l'homme et le cheval diffèrent par le rationnel et l'irrationnel, qui sont leurs différences propres. Mais ces différences elles-mêmes ne diffèrent pas ensuite par d'autres différences. Aussi, à serrer de près les termes, on ne peut dire proprement qu'elles diffèrent elles aussi. Elles sont autres, elles sont diverses, selon le philosophe. En effet, divers se dit absolument, mais ce qu'on affirme différer diffère toujours par quelque chose. Si donc on veut parler avec précision, on ne doit pas dire que la matière première et Dieu diffèrent et qu'elles sont autres, et le raisonnement tombe qui prétendait les confondre. Entre la matière première et Dieu, il y a altérité absolue. Et c'est suffisant. En ce sens que la matière première est totalement relative à autre chose, alors que Dieu n'est relatif à rien. Oui, ça c'est la grosse objection. Alors, tout de suite, la matière première est en pure puissance, donc elle est totalement relative à autre chose. Et Dieu n'est relatif à rien, puisqu'il est acte pur. Il est lui-même totalement en lui-même. Donc prétendre qu'il y a une similitude entre la matière première et Dieu, c'est très grossier, vous voyez. Voilà pour l'article, le point de vue de la simplicité de Dieu. Alors on me pose la question, pourquoi saint Thomas commence-t-il par étudier la simplicité ? Est-ce ce qui est contemplé en premier lieu ? Alors je crois que c'est important de comprendre pourquoi saint Thomas commence par la simplicité. Ensuite c'est la perfection. Si saint Thomas commence par la simplicité, parce que pour nous, n'oublions pas que la théologie, c'est toujours par rapport à nous-mêmes. C'est Dieu en tant que je le contemple. Or, pour nous, la contemplation de Dieu se fait en premier lieu en comprenant la transcendance de Dieu. Or, la simplicité, c'est par là que je connais en premier lieu la transcendance de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est totalement autre. Je sais bien qu'il y en a qui n'aiment pas qu'on dise cette expression, hein. Que Dieu est totalement autre, que Dieu est le tout autre. C'est pourtant vrai. Ce n'est qu'au niveau de l'être que je dis qu'il y a une analogie. Mais l'être n'est pas Dieu, et l'être n'est pas moi. De sorte que si je regarde l'existé de Dieu, je dois dire que Dieu est totalement autre. Je regarde l'existé de Dieu, c'est important ça. Parce que chaque fois que je dis l'existé, chaque fois que je dis que Dieu est totalement autre, je sais que j'ai une réaction quand je parle à Paris. Un bon père jésuite qui dit non, on ne peut pas dire ça. Je dis oui, on doit le dire. Il y a un duel dans la classe, dans la cour, c'est merveilleux, entre un père jésuite et un dominicain, tous les deux qui veulent être thomistes, et tous les deux qui ont là des perspectives différentes. Je crois que si je suis vraiment thomiste, je dois dire que Dieu est totalement autre. Vous voyez, c'est là, c'est très intéressant, parce qu'on touche tout de suite les deux conceptions d'analogie. La conception suarésienne, évidemment, et la conception de saint Thomas. Pour la conception suarésienne, il y a une similitude qui prime. Pour la conception de saint Thomas, c'est celle d'Aristote, c'est allo, allo. C'est autre, autre. Et donc, dans l'analogie, c'est d'abord autre, autre. Et quand il s'agit de Dieu, je veux dire que Dieu est totalement autre, ce qui n'exclut pas qu'il y a une certaine analogie. Mais vous voyez, l'analogie est dans le totalement autre. Entre la créature et le créateur, il y a totalement autre. Pourquoi la créature n'ajoute rien à Dieu? Comme si je disais que ce n'est pas totalement autre, je dirais que la créature ajoute quelque chose. C'est pour ça que ça va très loin, ça. C'est très important, vous voyez. Parce que Karl Barth dit que l'analogie, c'est le diable, parce que justement, il considère que dans l'analogie, il prend l'analogie selon Suarez. Alors il y a une certaine similitude. S'il y a une certaine similitude entre Dieu et la créature, Dieu n'est plus Dieu. Il a raison. C'est pour ça que ça n'a l'air de rien, mais c'est très très important de dire ça. Alors, la première chose que le théologien doit montrer, c'est l'altérité absolue de Dieu, c'est-à-dire la transcendance de Dieu. Et pour montrer la transcendance de Dieu, je le fais par la négation la plus forte. Or, la négation la plus forte, c'est justement de nier toute composition en Dieu. Parce que tous les êtres que j'expérimente sont composés. Et saint Thomas a fait ce tour de force, parce que ça, il faut bien le voir, d'essayer de comprendre toutes les compositions qui sont en moi. Et il a rassemblé toutes les compositions qui sont dans l'homme pour les nier par rapport à Dieu et pour montrer qu'il n'y a aucune projection anthropomorphique. Alors, cet article premier, c'est la purification radicale de tout anthropomorphisme au point de vue théologique. C'est de montrer que je ne peux atteindre l'existé de Dieu qu'en allant le plus loin possible dans la négation. Et la négation, elle est pleinement vécue du côté de la composition. Donc je nie toute composition en Dieu. Quand je dis ça, ça veut dire que je n'ai aucune expérience philosophique de Dieu. Seule la foi me permet de toucher Dieu dans la totale obscurité, puisque je n'ai aucune expérience. Donc dans la totale obscurité. Alors cette obscurité peut être éclairée dans l'amour par l'Esprit Saint, mais au point de vue de l'intelligence, c'est toujours la totale obscurité. L'amour peut se substituer à l'intelligence, et dans l'amour, il peut y avoir une expérience d'amour de Dieu, une expérience amoureuse de Dieu, qui fait que je comprends que Dieu est plus présent à moi-même que je ne suis présent à moi-même. Mais cette présence amoureuse de Dieu n'exclut pas que du côté de l'intelligence, c'est l'obscurité totale. Je crois que c'est la grande raison pour laquelle saint Thomas commence par le point de vue de la simplicité. Pour mieux montrer la transcendance de Dieu. Et alors à ce point de vue-là, ça c'est très vrai. Nous verrons progressivement comment la simplicité de Dieu commande toute la somme. Il fallait commencer par la simplicité de Dieu pour maintenir à travers tout la transcendance absolue de Dieu. Sitôt saint Thomas, il faut bien le voir, sitôt saint Thomas, quand je parle sitôt saint Thomas, je parle de Octave. Et c'est déjà vrai chez Don Scott. Quel est le premier attribut de Dieu? C'est l'infini. Pour saint Thomas, l'infini va arriver après la perfection et la bonté. Et vous comprenez que c'est capital, ça. Alors ça, c'est très très simple. C'est très intéressant à regarder. Vous regardez attentivement l'article sur l'infini de Dieu. Saint Thomas dit « Dieu est infini parce qu'il est simple. » Dieu est infini parce qu'il est simple. Autrement dit, la simplicité me fait toucher la transcendance. L'infini me montre l'immanence. Quand je dis que Dieu est infini, je veux dire qu'il n'y a pas de barrière entre Dieu et moi. Dieu n'a pas de frontières. Dieu est sans frontières. C'est merveilleux, ceci. Je préfère un livre là-dessus. Merveilleux. Dieu est sans frontières. Le Dieu sans frontières. Parce qu'il est infini. Il est absolument sans frontières. Et il est sans frontières parce qu'il est simple. Mais il n'y a pas de douanier. Il n'y a pas de frontières. Tout ce que nous mettons comme frontières, ce n'est pas Dieu. Dieu est infini, il est infini, donc sans frontières, absolument. Alors, toute la question, c'est l'ordre entre les deux. Et cet ordre que saint Thomas a très bien vu, pour sauvegarder la véritable immanence, il faut d'abord affirmer la transcendance. Si je mets au contraire l'infini en premier, ce qui vient très vite après saint Thomas, Don Scott, Occam, Suarez, Descartes, tous, Hegel, voilà l'hérésie commune, hérésie, vous voyez, philosophique, hein, donc on ne met pas le bûcher, mais l'hérésie philosophique, qui a commencé immédiatement après saint Thomas. C'est là où on voit, au point de vue théologique, les deux aspects tout à fait différents. L'un commence par l'immanence, l'autre commence par la transcendance. Alors je comprends, voyez, Karl Marx, énervé par cette philosophie dite thomiste qui met l'infini en premier lieu. Alors à ce moment-là, vous ne respectez plus Dieu. Parce que Dieu n'est pas premièrement immanent. Alors il y a la violence du protestant qui dit non, ça ne peut pas être comme ça. Et ça, il faut le reconnaître, hein. Il faut reconnaître que à l'intérieur du catholicisme, il y a ce fait, c'est qu'il y a eu ces théologiens, dont Scott, Occam, Suarez, Descartes, Hegel. Alors Hegel, évidemment, n'est plus catholique, hein. Mais à travers Occam, c'est infiltré le primat de l'infini. Et je dis bien à travers Occam et dont Scott. C'est infiltrer le primat de l'infini. Et si vous mettez l'infini en premier lieu, vous ne pouvez plus retrouver la transcendance de Dieu. C'est ça qui est important, vous voyez, à saisir. Et ça, je vous dis, c'est fait l'enquête, je l'ai faite parce que ça m'a intéressé. Ça m'a intéressé beaucoup de voir ça, c'est très intéressant de voir ça. Ça n'a l'air de rien. Saint Thomas maintient la simplicité, on va essayer de comprendre, hein. Saint Thomas maintient la simplicité en premier lieu, il montre que l'infini repose sur la simplicité. Alors, ajoutez, saint Thomas est le premier, je crois, ça j'en suis pas absolument sûr, mais je crois que saint Thomas est le premier à donner à l'infini un sort particulier. C'est-à-dire de comprendre que Dieu est infini dans son être. Avant. Et regardez dans l'Écriture. Hein. Dans l'Écriture, on parle toujours de la toute-puissance infinie, de la connaissance infinie, de l'amour infini, de la miséricorde infinie. L'infini qualifie toujours une autre qualité de Dieu. Toujours. Ça, c'est facile. Hein. Vous savez, il y a le petit livre là, facile à découvrir. Oh, là, ici, à la bibliothèque, ce point des attributs de Dieu au point de vue biblique. C'est très intéressant. C'est très intéressant, c'est un professeur de l'angélique qui a fait ça. Il s'est un peu abusé en faisant ça. ça montre justement que l'ordre biblique des attributs de Dieu et l'ordre de saint Thomas sont tout à fait différents. Parce que quand vous voulez montrer le fondement biblique des attributs de Dieu, vous comprenez, ça ne marche plus du tout. Parce que vous cherchez. Jamais dans l'Écriture on a dit que Dieu était simple. Jamais. Un fondement biblique, très ennuyeux. Premier attribut de saint Thomas, la simplicité. Cherchez bien dans la Bible. Jamais. Soyez simple comme les colons. Oui, c'est nous. Jamais dit Dieu est absolument simple. Ça ne se dit pas. On dit Dieu parfait, tout de suite, second. Donc l'ordre biblique des attributs de Dieu est autre que l'ordre que donne saint Thomas. Alors, ça peut scandaliser un bibliste, je comprends très bien, ça peut scandaliser. Et ça doit le scandaliser, c'est bon de sentir le scandale. Mais il faut comprendre alors pourquoi saint Thomas fait ça. Pourquoi saint Thomas montre la simplicité en premier lieu. Parce que saint Thomas ne fait pas une théologie biblique, il fait une théologie scientifique. Il essaie de montrer comment nous pouvons affirmer que la manière d'exister de Dieu, si j'essaie de la contempler, c'est la simplicité. C'est d'abord et en premier lieu la simplicité. Parce que la première chose que le théologien peut faire, c'est d'être le gardien de la transcendance. C'est ça le théologien.